grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, second volet d'une émission consacrée à la prise de parole en public chez les enfants et les adolescents. Un volet pratique pour leur donner des outils concrets pour convaincre un auditoire, que ce soit à la maison, à l'école, entre amis, sur les réseaux sociaux, des conseils pour débattre, argumenter quand on souhaite défendre une cause, par exemple la lutte contre le réchauffement climatique. Une émission que nous vous proposons à l'occasion de la semaine de la presse à l'école, car la presse, c'est la possibilité de faire entendre des voix singulière, de montrer d'autres vies que la sienne, de débattre, d'argumenter, de se frotter à d'autres opinions dans le cadre d'une dialectique féconde pour la démocratie. Avec nous ce matin, Héloïse Lérété du mensuel Sciences Humaines, l'avocat Bertrand Perrier, le documentariste Stéphane de Freitas et le rédacteur en chef de Phosphore, David Groison. Les enfants et les ados ont la parole ce matin pour défendre une idée, une cause, en essayant de nous convaincre au 01 45 24 7000. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, quoi de neuf à la une de votre magazine qui jette un regard singulier sur la société?
Eh bien, on parlera de cette jeunesse qui veut réparer le monde en Algérie comme en France.
A tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse.
Et ce matin, pour nous délivrer des conseils concrets pour apprendre à parler en public, apprendre aux enfants et aux adolescents à s'exprimer à l'oral, Héloïse Lérété, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef de Sciences Humaines, indispensable mensuel en ce moment, dans le tout nouveau numéro, un dossier consacré à l'art de la parole. Bonjour Stéphane de Freitas.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur social, vous avez co-réalisé le documentaire Remarqué à voix haute, vous êtes concepteur des programmes de prise de parole Eloquentia et vous avez écrit Porter sa voix, s'affirmer par la parole. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
La star de ce documentaire, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Le grand public vous a donc découvert dans ce doc et vous avez publié La parole est un sport de combat. David Groison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Phosphore. Et puis nous accueillerons plusieurs jeunes qui prendront la parole pour défendre un point de vue. Elena Ourdin, lycéenne à Toulouse, et Mathias Blanc, bonjour.
Bonjour.
Élève de 3e en région parisienne. C'est quoi le lycée? Le collège?
Collège Camille Corot.
Voilà. Bertrand Perrier, s'exprimer de façon claire et convaincante, c'est pas donné à tout le monde. La preuve avec vous. Vous étiez très timide et vous êtes devenu un avocat réputé au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui sait manier l'art oratoire.
Oui, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour la parole, comme pour toute chose. Il y a des gens qui sont doués pour le sport, des gens qui sont doués pour la cuisine, il y a des gens qui sont plus doués pour la parole. Moi, je l'étais pas du tout. Et donc, c'est bien la preuve que ça peut marcher, parce que je dis pas que je suis aujourd'hui un grand orateur, mais au moins, je crois pouvoir exprimer une idée à peu près clairement et simplement. Donc, ce chemin-là, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire.
Que diriez-vous à Manon de Rennes, 15 ans, qui n'ose pas s'exprimer en public par peur du regard des autres? Ce regard des autres qui peut être le pire des ennemis.
Je lui dirais d'essayer de le faire petit à petit, dans un environnement bienveillant de non-jugement, qui peut être sa famille, qui peuvent être des amis extrêmement proches, et puis d'élargir petit à petit le cercle de son auditoire, mais qu'il y a au débarrage forcément une petite violence. Hein. C'est comme un cercle vicieux, il faut le rompre. Et c'est pas forcément très facile, mais il faut le faire dans un cadre vraiment très bienveillant, avec des gens qui vont l'aider à progresser, lui donner des conseils, mais sans jugement trop abrupt.
Stéphane de Freitas, comment on fait pour surmonter le regard des autres, qui peut tétaniser, notamment à l'adolescence?
Je partage complètement le point de Bertrand, c'est justement le fondement des programmes Eloquentia, c'est-à-dire de créer, en créant une atmosphère bienveillante, eh bien en fait c'est le meilleur moyen de permettre à la personne de s'exprimer, de regarder les autres dans les yeux. Moi je donne toujours ce petit conseil-là, c'est-à-dire que quand on s'adresse à un auditoire, au début, le réflexe d'un jeune c'est de regarder ses pompes, de regarder en l'air, de gigoter. Ben, tout simplement des petits conseils tout simples, de mettre ses pieds en parallèle avec les épaules, de regarder ses amis dans la salle ou le professeur qui est dans une situation où il acquiesce, d'encourager, qui lui sourit. Il y a une manière d'accompagner en fait les enfants pour qu'ils, justement, ils rompent cette barrière, ils brisent leur carapace, et ça doit se faire avec beaucoup de respect, d'écoute et de bienveillance vers les enfants.
C'est ce que je suis en train de faire, j'acquiesce et je souris en vous écoutant. L'art de parler en public, c'est un outil formidable pour convaincre dans la vie quotidienne, mais il faut y prendre du plaisir, Bertrand Perrier. Il faut prendre ça comme un jeu que l'on prépare tout de même sérieusement.
C'est d'abord une chance en réalité, la prise de parole en public. C'est d'abord pouvoir dire sa vérité, ses convictions et les faire partager à d'autres. C'est assez rare les moments dans la vie, surtout pour les enfants, où ils ne sont pas en train de réciter quelque chose qu'ils ont appris par ailleurs, mais ils sont les créateurs de leur propre message, les concepteurs de leur propre message, et qu'ils ont la chance de faire partager leurs convictions, leurs histoires, leurs idées, leurs admirations à d'autres personnes. C'est formidable. Donc c'est pour ça que c'est d'abord un plaisir.
Mathias, tu vas nous convaincre tout à l'heure, tu vas défendre une idée en fin d'émission. Est-ce que tu le crains, toi, ce regard des autres, ce jugement des autres ?
Non, pas vraiment.
Pourquoi ?
Bah, parce que, comme vous l'avez dit dans la salle, je préfère regarder mes amis, comme ça, au moins, je suis sûr qu'eux, ils me jugeront pas. Et même si les autres le font, bah, au moins, je m'en aperçois pas, et c'est ce qui permet, justement, bah, de surmonter ça.
Et Louise Lérété, dans la prise de parole, notre famille nous influence beaucoup, plus qu'on ne le croit.
Oui, bien
l'accent,
sûr.
La voix,
bien sûr,
la
bien sûr.
Manière
le
de
langage,
poser son
le
corps.
Le langage, c'est un marqueur social, on le sait bien. Depuis Bourdieu, qui avait écrit un beau livre sur ce thème, ce que parler veut dire. Mais justement, ce qui est très enthousiasmant sur ce sujet-là, et c'est ce que montrent justement tous les articles que nous avons édités dans ce dossier de sciences humaines, qui est un dossier qui, moi, m'a beaucoup enthousiasmé, c'est que c'est corrigible. On peut travailler tous ces aspects-là, aussi bien le lexique que la capacité à argumenter son propos, que son accent, que son élocution, que sa posture, que sa respiration, parce qu'il y a énormément d'éléments qui entrent en compte dans la fabrique d'un discours. Et finalement, en quelques exercices, en quelques entraînements, on peut tous considérablement progresser.
Et nous allons vous donner quelques conseils pratiques ce matin. David Groison, vous qui êtes rédacteur en chef de Phosphore, vous constatez que les jeunes sont de plus en plus bons à l'oral par rapport à, je sais pas, 10, 15, 20 ans.
Ils sont meilleurs à l'oral, notamment grâce à tous ces concours, Eloquentia, le concours de plaidoirie du Mémorial de Caen, parce qu'ils parlent de choses qui leur tiennent à cœur. Les discours, les grands discours dont on se souvient, Martin Luther King, I Have a Dream, Barack Obama, Yes We Can, c'est pas juste parce qu'ils se tiennent droit ou qu'ils parlent bien, c'est aussi parce qu'il y a du fond et qu'il y a des causes qu'ils ont envie de défendre et qu'ils ont envie d'un monde meilleur.
Les jeunes qu'on a entendus là chez Sonia De Villers juste avant dans l'Instant M, ils sont absolument formidables. Les gamins d'interclasse, ils ont une aisance à l'oral. Stéphane De Freitas, absolument incroyable.
Complètement. Moi, je pense que une des raisons pour l'engouement pour l'oralité et ce pourquoi les jeunes, nous, dans nos programmes, on est dans plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires, bientôt 100. On voit l'engouement des jeunes pour ça, mais il y a aussi que dans cet ADN de cette génération qui est habituée à s'exprimer, à prendre la parole dans les réseaux sociaux, à dire ce qu'elle pense, il y a une génération qui est invitée à participer sur les forums. D'abord, c'est les chats, puis les forums, puis maintenant les vlogs, les blogs sur YouTube, les chaînes YouTube. Et toute la génération a envie d'avoir voix au chapitre. On le voit d'ailleurs dans cette génération, dans cette ère du grand débat. La société est appelée à être co-construite. Et je pense qu'une des raisons du succès, c'est pas tant dans la célébration de ressasser l'oralité à l'ancienne de Cicéron. Il y a des socles et je pense que la rhétorique classique est une des matières centrales. Mais il y a aussi de manière plus générale une volonté de débattre, de dialoguer, que l'école ne soit pas uniquement une pyramide où l'enseignant, le sachant dans l'inertie des hussards noirs, vient délivre le savoir, mais aussi un lieu plus horizontal où on discute de pair à pair, hein, dans cette ère du peer-to-peer justement, et que c'est une manière aussi de s'enseigner par l'intelligence collective et de s'apprendre des choses mutuellement.
Bertrand Perrier.
Oui, je voudrais pas qu'on perde de vue non plus l'idée que un enseignant doit avoir la maîtrise de sa classe. Faire un débat, c'est pas faire un n'importe quoi. Faire un débat, c'est donner un cadre à un débat. C'est dire voilà comment on va argumenter. Il y a des règles, vous le disiez. Il y a une façon de commencer un propos, de le terminer, de l'organiser. Et donc c'est pas un café du commerce ni un comptoir de bar une classe. Et donc il faut aussi que ça soit maîtrisé par l'enseignant. Et évidemment, la création sur laquelle on reviendra peut-être d'un grand oral au baccalauréat est précisément l'occasion de faire entrer les règles de l'oralité, mais pas seulement l'oralité en une sorte de foisonnement un peu incontrôlé, mais les règles de l'oralité dans l'enseignement.
Stéphane De Freitas, on va donner un premier conseil, vous l'avez un petit peu évoqué. Avant de prendre la parole, il faut d'abord prendre possession de son corps. Il est important de bien ancrer son corps. Pourquoi est-ce que c'est si important ?
C'est un voyage, la prise de parole. Moi, j'aime pas trop parler d'éloquence parce que je préfère consacrer ce terme à l'effet. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en congruence, est aligné, qu'il ait une voix grasse, épaisse, qu'il soit un peu timide, peu importe. Quand ça sonne juste, quand on est dans cet alignement entre avoir compris nos émotions, nos ambitions, nos frustrations, nos peurs, les avoir structurées, c'est-à-dire les mentaliser, organiser le propos avec des techniques argumentatives, avoir un bon canevas de plan en fonction du propos qu'on porte, un plan dialectique, chronologique, le plan classique, et troisième temps, la verbalisation. Mais quand sur les deux premiers éléments on est aligné, la verbalisation, tout le monde a ses spécificités. Il y a des scories, hein, à pas éviter, à gigoter. Où est-ce qu'on met les mains? Souvent les mains c'est problématique. Donc il y a un conseil, c'est de croiser les mains, les envelopper peut-être au niveau du diaphragme, un peu qui peut être le refuge, puis d'accompagner le propos. Donc il y a évidemment des techniques, mais c'est d'abord un voyage personnel. Moi, je dis souvent qu'il y a, ce triptyque donc d'introspection, de structuration, de mentalisation, puis de verbalisation. Et c'est justement aussi une éducation au savoir-être. La prise de parole éducative, ça permet de stimuler des connaissances, de faire vivre le savoir. Ça peut être utilisé par des enseignants dans chacune de leurs matières, histoire, géo, français. C'est valable pour tout, même en mathématiques, on peut inventer des interactions, du débat, du dialogue. Mais c'est aussi d'abord un voyage personnel et une éducation au savoir-être.
Héloïse Lhérité.
Il y a plusieurs choses en réalité derrière ce mot d'oral ou cette expression d'art de parler. Il y a la communication orale qui est très très bien travaillée dès l'école primaire aujourd'hui et qui va comprendre la prise d'assurance, l'élocution, le sens de la répartie. Mais il y a aussi la rhétorique qui est tout à fait autre chose et qui est beaucoup plus tributaire d'une tradition écrite. Vous-même, Ali, quand vous avez introduit cette émission, vous aviez un texte écrit. Et nous sommes dans une situation d'oralité. Mon confrère de Phosphore rappelait que les étudiants, les lycéens, avaient la culture de ces grands textes. Par exemple, I Have a Dream, qui est d'abord un discours écrit. On peut penser à Simone de Beauvoir, Simone Veil, sur l'IVG, ou bien des discours de Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Ce sont des grands textes, mais qui sont d'abord écrits et qui relèvent d'un corpus de techniques, de figures de style.
Et de grands textes qui sont incarnés physiquement, Bertrand Perrier.
Oui, bien sûr. Un orateur, en réalité, c'est d'abord un corps qui parle. Et donc, la capacité à être à l'aise dans son corps, c'est la première condition de la prise de parole. D'abord, un orateur, on le voit. On pourrait même éteindre le son. On aurait déjà une idée de ce qu'il dit. Est-ce qu'il est dans la vigueur? Est-ce qu'il est dans dans le calme? Est-ce qu'il est dans la contemplation? Rien que son corps parle pour lui.
Deuxième grand conseil, la gestion du stress. Ce stress qui peut nous booster, nous porter, nous donner des ailes, mais qui peut également nous les couper, les ailes. Stéphane de Freitas, comment on gère ce stress qui peut nous empêcher de bien nous exprimer à l'oral?
Alors, le conseil que je donnerais à des enfants ou à des professeurs qui ont vocation à faire de la prise de parole éducative, c'est de filmer, si possible, l'élève, parce qu'on se rend compte très rapidement, dès notre première allocution, dès la première prise de parole, si elle est filmée, on se rend compte immédiatement des premiers éléments abrupts, comme ça, de manière frontale, de toutes les peurs, ce qu'on porte, le patrimoine, justement, qu'on a par rapport à l'oralité, est-ce que chez soi on s'exprimait ou pas, et ça se révèle immédiatement par le corps. Donc il y en a qui vont, entre chacune de leurs phrases, placer des « comme ça, comme je le fais pour combler le vide, qui vont gigoter, qui vont regarder, pas oser regarder le professeur, toutes ces choses-là. En fait, le conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est de tout de suite former à la respiration ventrale. C'est-à-dire qu'avant de faire une prise de parole, donner un petit réflexe aux jeunes, c'est d'apprendre à respirer par le ventre, à baisser le rythme avant une prise de parole. Et c'est là où on est dans un voyage aussi personnel d'appréhender, de faire baisser le rythme, le souffle. Et on le remarque, nous, chez les jeunes à qui on prodigue ce conseil-là, très rapidement, ensuite, quand ils font leur prise de parole, en apprenant aussi, deuxième petit conseil, la première phrase de leur discours. Un jeune collégien ou un lycéen, quand on lui dit « tu apprends par cœur la première phrase de ton discours », en fait, dès le début, il bégaye pas et c'est comme une toupie. Si on la lance bien au début, et ben ça tourne derrière. Donc, c'est des petits conseils qui peuvent aider comme
ça. Bertrand Perrier, votre conseil pour gérer son stress, conseil aux enfants et aux ados qui nous écouteraient ce matin?
Alors, en complément de ce que dit Stéphane, qui est évidemment totalement vrai, je dirais faire ça tous les jours. En réalité, s'il n'y a pas de secret, et même les plus grands pianistes font leur gamme tous les jours, les plus grands sportifs font leurs exercices tous les jours. Et donc, c'est chaque jour, une minute, deux minutes, tout seul, avec des amis, avec sa famille, le faire. Et en complément de ce que dit Stéphane, où on peut se filmer, on peut aussi s'enregistrer. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ressortent. Est-ce que finalement j'ai accroché sur un mot? Est-ce que j'ai dit un « e » parce que je ne savais pas où j'allais? Est-ce que j'ai accroché? Tout ça, ça transparaît, c'est très cruel. Mais si on le fait, c'est vraiment succès garanti.
David Groison de Phosphore.
Oui, c'est pas aussi de leur dire que c'est pas si grave de se planter. C'est-à-dire que d'avoir un lapsus, on l'assume, d'avoir un trou de mémoire. Vendredi soir, j'étais au spectacle de Malik Bentala. Il a un trou de mémoire, il l'assume pleinement. Il demande à la salle où il en était, etc. Et en fait, on passe tous un bon moment quand même.
Héloïse Lhérité.
Tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce qui a été dit. Moi, il est vrai que dans certaines situations où je dois m'exprimer sur scène parce que ça m'arrive, si je suis un peu stressée, j'éprouve le besoin de m'isoler un moment, de me retrouver seule avec moi-même pour prendre appui sur moi-même, en fait, pour pouvoir me lancer vers les autres. Parce qu'au fond, l'important, c'est pas tant d'avoir confiance en soi quand on est sur scène que de donner confiance aux autres, que les autres aient confiance en nous. Et pour ça, il faut prendre appui en soi.
Je vous donne un petit conseil à propos de la respiration. Je vous conseille la respiration carrée. Vous inspirez par le nez, par le ventre, évidemment. En comptant jusqu'à deux, vous suspendez votre souffle. Poumon plein pendant le même temps, pendant deux secondes. Ensuite, vous expirez en comptant jusqu'à deux. Et pour finir, vous suspendez votre souffle, poumon vide, sur deux temps. C'est la fameuse respiration carrée. Vous pouvez faire ça pendant 2-3 minutes et ça fait beaucoup de bien, hein, Stéphane de Freitas, cette respiration carrée.
Je reviens tout de suite, je vais la faire.
Mathias, t'es avec nous, t'as l'air pas du tout stressé à l'idée tout à l'heure de défendre ton point de vue. Comment tu fais? C'est quoi ton secret pour pas être stressé? T'as l'air d'un calme absolument incroyable.
Bah, si, en fait, je suis stressée.
Ah, d'accord, ouais. En tout cas, ça se voit pas. Mais fais la respiration pendant le disque, la respiration carrée si t'es un peu stressé. Allez, on continue à vous délivrer, à délivrer aux jeunes des conseils pour bien parler en public, convaincre un auditoire, affûter ses arguments. Les enfants et les ados peuvent prendre la parole pour défendre donc une idée et une cause qui leur tiennent à cœur en essayant de nous convaincre au 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour avec l'aide de Nicolas Bauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe, la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turtève. Groubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond. Je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un quart de flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu files, me dit-elle, descends pas, sauve-toi, parlez-toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, va. Sista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise, c'était la cohue. J'en peux plus, j'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. Sans toute pente, une courge descendit jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti. Et tout de suite, je les ai vus, quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie, toute la vie.
Claude Nougaro, à bout de souffle.
Fais voir ton nom.
J'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi.
Grand bien vous fasse.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Sur France
10h26 ce matin, nous délivrons quelques conseils aux enfants et aux ados pour bien parler en public et pour également argumenter. Les jeunes peuvent nous appeler pour défendre une idée, une cause, en essayant de nous convaincre au 01 45 24 7000.
L'argumentation, si je la tiens qui, moi?
Devine, de ma mère.
Elle est toujours dans l'argumentation.
En tout cas, l'argumentation, je pense que c'est beaucoup mieux que la bagarre.
Mais quand tu vas travailler plus tard, est-ce que ça va te servir?
Bah oui.
Tu sais, tu peux
toujours être recruté à ton âge. Hein.
Par exemple, si on a fait une grosse bêtise et qu'on va au juge.
Ah oui, il faut savoir argumenter voilà. Pour te sortir de la...
Ça pourra nous servir.
On argumente tout le temps pour convaincre.
Oui. Voilà. Sauf que moi, j'essaye de...
Toi, c'est ça pour
d'argumenter avec ma mère pour avoir un chien, mais elle a dit non.
Extrait d'envoyé spécial en octobre dernier. Stéphane de Freitas, l'un des enfants, nous dit l'argumentation, c'est mieux que la bagarre.
Oui, c'est sûr que de pouvoir verbaliser, dialoguer et poser justement des arguments. Bertrand parlait au début de cette émission de apprendre à verbaliser, à expliquer, à poser une idée tout simplement. Il y a ce triptyque qu'on enseigne, qui est on pose une idée. Pour expliquer une idée, on peut avoir recours à deux types d'arguments, des arguments de fait, de droit, de logique, d'émotion aussi, hein, faire larmoyer, c'est aussi, ce matin j'ai vu une femme tenant son enfant en bas de chez moi, ça m'a bouleversé, c'est différents ressorts, et puis à chaque fois une illustration. Alors pour l'argument d'émotion, l'illustration est souvent emboîtée, mais donc ce triptyque-là, pour expliquer une idée, bien la transmettre et se faire comprendre, c'est la base du dialogue, et qui permet d'échanger sans partir dans tous les sens.
Bertrand Perrier, l'argumentation, c'est mieux que la bagarre ? Je m'adresse à l'avocat.
Non mais évidemment, surtout que chez les avocats, l'argumentation succède à la bagarre. Hein. C'est ça qui fait que la rencontre de l'offre et de la demande est parfaite. J'ai dit mille fois que débattre, c'était le contraire de se battre, et que c'était évidemment la clé la société. On ne fait société que si on est capable de mettre des mots sur les choses, et c'est quand on n'est pas en capacité de convaincre par la parole que l'on en vient au coup. Et je crois que le lien social vit évidemment de la capacité à se parler.
Mais le titre de votre ouvrage, c'est « La parole est un sport de combat ».
Oui, alors pour plusieurs raisons. Non mais je veux bien m'en expliquer. D'abord parce que c'est un sport de combat sur soi-même. Hein. Les Français se disent timides à 40%, donc on est déjà très nombreux. C'est aussi un sport de combat avec les autres. Combat pacifique, évidemment, combat loyal, qui est un combat argumentatif. Et puis après, évidemment, on a évoqué Bourdieu tout à l'heure, et vous connaissez tous le film qui a été fait sur Bourdieu qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat ». Et donc l'idée de Stéphane, à laquelle je participe, est de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme non plus définitif dans la prise de parole. Et c'était aussi un clin d'œil à Bourdieu que ce titre.
Alors parmi les conseils pratiques, Héloïse Lhérité, hein, il y en a quelques-uns dans le nouveau Sciences Humaines. Alors ça peut paraître banal, mais il faut d'abord avoir quelque chose à dire.
Se poser
la question, qu'ai-je à dire ?
C'est essentiel. D'ailleurs, c'est le point commun, si je peux donner des conseils, entre l'oral et l'écrit. Quand j'ai un journaliste qui a un problème de complexe de la page blanche, je lui ai dit, au fond, lève les yeux de ta feuille et demande-toi, qu'est-ce que j'ai à dire en vrai ? Bah, c'est pareil quand on veut faire un discours, c'est la première chose.
Bonjour Nathalie, ou Eléa, 9 ans et demi. Bonjour.
Oui.
Bonjour Eléa, tu es avec ta maman Nathalie, tu as 9 ans et demi, et tu as envie de défendre un point de vue, c'est ça ? Tu as envie de t'exprimer ? Nous t'écoutons.
Ok. Je voudrais parler de la confiance que les adultes devraient avoir envers les enfants. J'ai de la chance que dans ma famille, on essaye de répondre à toutes les questions que je me pose, mais d'autres n'ont pas cette chose. Soit parce que les adultes trouvent que les enfants n'ont pas besoin d'être informés, soit parce qu'ils pensent que les enfants ne sont pas capables de comprendre leurs explications. L'information est utile pour notre future vie d'adulte, pour déjà comprendre la vie qui nous entoure. Un autre point, certains parents inventent des histoires pour se faire écouter. Par exemple, dire qu'il y a un monstre dans la case pour ne pas que les enfants y aillent, alors que les enfants peuvent comprendre qu'aller à la cave est dangereux. Il l'écoutera et sera fier s'il a la confiance des adultes. L'enfant doit faire des expériences, doit pouvoir apprendre, découvrir de nouvelles choses, encouragé par ses parents.
Bah dis donc, Eléa, voilà. Bravo, bah super, on t'a écouté avec beaucoup d'attention. Tu sais, dans le studio, on était tous à t'écouter, Bertrand Perrier.
Et Léa, c'était formidable. Et effectivement, on a l'impression que tu es beaucoup plus adulte que nous. Et je vais te donner une très belle phrase qui est dans un magnifique livre que tu connais peut-être, qui s'appelle Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et à un moment, Saint-Exupéry dit dans Le Petit Prince, les enfants doivent être très indulgents avec les grandes personnes.
Stéphane de Freitas, sur la prise de parole de Léa, 9 ans et demi.
Moi, je fais ma respiration carrée, là, parce que parler après Léa, c'est stressant. Non, mais bravo, mais on a une parfaite illustration du fait que...
Moi, je suis convaincu, David de Groison, de Phosphore.
Moi, et puis ce plaidoyer pour informer les enfants, en étant responsable d'un titre pour la jeunesse, évidemment que ça me plaît, parce que Phosphore, c'est pour les ados, mais on a plein de titres, Astrapi, J'aime lire, Okapi, etc. Plein de titres on a la chance en France d'avoir une presse jeunesse très riche, très diversifiée. Et c'est vrai que c'est important d'offrir de l'info adaptée aux enfants.
Et Léa, tu es habituée à prendre la parole à l'école, en famille?
J'aime beaucoup parler et je fais du théâtre.
Ah,
Donc j'ai l'habitude de faire des spectacles. Mmh. Et oui, j'aime parler comme ça pour dire que les enfants, eux aussi, peuvent avoir leur choix.
Alors une question à la Jacques Martin que tu n'as hélas pas connue dans l'école des fans. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand comme métier? T'as envie de faire quoi? Est-ce que tu veux prendre ma place à la radio?
Prendre la place.
Oui, présenter des émissions à la radio, puisque visiblement t'aimes bien parler et comme tu suis des cours de théâtre, t'as peut-être envie de faire un métier en rapport avec la parole.
Ben oui, j'aimerais bien, alors je sais pas trop, mais être scientifique et pouvoir expliquer aux autres et pouvoir apprendre.
Ah, c'est
ça, être scientifique de quelque chose, je sais pas.
Bah, c'est formidable.
Je suis un peu curieuse de tout.
C'est formidable, Léa. Merci d'avoir appelé. Merci à ta maman, Nathalie. Alors, avant de prendre la parole, Stéphane Freitas, il est important de structurer ses idées, d'étayer ses arguments avec des exemples.
Tout à fait. C'est l'idée selon laquelle, pour parler aux autres, pour transmettre une idée, souvent, nous, on l'a de manière abrupte. En soi, on a soi-même son opinion. Le petit conseil que je donne avant de faire un discours, c'est aussi de se questionner, de se poser des questions sur l'opinion. Enfin, c'est l'expression selon laquelle tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est une belle illustration, c'est de se dire, mais de questionner rapidement l'idée qu'on s'apprête à partager aux autres. Hein, ça peut être, enfin, si c'est un discours, évidemment, c'est prendre le temps de la réflexion, de le poser à l'écrit, de bien challenger, structurer son argumentaire. Et parfois, soi-même, moi, ça m'est arrivé bien souvent, et ça arrive souvent à des collégiens et des lycéens, de se dire, mais au début, quand j'ai eu le sujet, je pensais ça. Et puis quand j'ai commencé à poser mes idées, donc une idée, deux, trois arguments, à chaque fois qu'il étaye, je parlais de la typologie des arguments, avoir recours à chaque fois à deux types d'arguments différents pour étayer une idée. Donc on pose une idée. Aujourd'hui, il y a plus de 600 millions de personnes qui vivent, pour parler d'abord de la pauvreté dans le monde, dire moi, ce qui me révolte, c'est la pauvreté dans le monde. Argument économique, 600 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Argument d'émotion, moi, ça me déchire le cœur de voir des SDF dans la rue. Pas plus tard qu'hier, je voyais cette personne en souffrance qui arrivait à peine à aligner deux mots de suite. Donc, avoir une typologie comme ça d'arguments et d'illustrations. Là, je viens de le faire, je viens de les emboîter. Mais c'est ce qui permet d'étayer, d'argumenter, de pouvoir convaincre.
Bertrand Perrier.
Oui, et c'est très important, comme le dit Stéphane, de qualifier ces arguments. Il y a une petite grille, hein, à chaque argument. On peut avoir un argument historique, un argument moral, un argument politique, un argument économique, un argument par comparaison internationale. Tout ça, c'est vraiment très important. Un argument, alors c'est des termes techniques, par induction. Alors on passe d'une situation particulière, on en tire une règle générale. Hein, c'est ce que fait la publicité. On a une égérie, et puis on se dit, ah, elle est magnifique, c'est donc que la crème schmoll rend les gens magnifiques, et donc ça vaut pour tout le monde. Ouais, ça, c'est typiquement un argument par induction. Donc en fait, c'est la prose de Monsieur Jourdain. L'argumentation, on fait ça tous les jours, mais c'est vrai que ça aide de qualifier ses arguments. Moi, je dis toujours, souvent, on a 30 secondes, une minute pour donner une idée, et on le sait bien dans les médias. Et donc, je dis aux jeunes, voilà, vous avez une minute et vous avez trois idées. Vous me les qualifiez. Donc, j'ai d'abord un argument économique. Ensuite, j'ai un argument moral. Et enfin, j'ai un argument historique. Voilà, ça me suffit. Et avec ça, j'ai un début, j'ai une fin. Ça me va.
Héloïse Dérété.
Cicéron a presque tout dit. Il disait, l'orateur doit considérer trois choses. Ce qu'il dit, dans quel ordre et de quelle façon il le dit. Alors, j'ai dit presque parce que moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait tout dit. Il en a oublié deux. À qui qu'on le dit et dans quelle intention ? Parce que beaucoup de discours ont été ratés faute d'avoir bien identifié leur auditoire.
David Groison de Phosphore, on peut puiser ses arguments, les jeunes peuvent puiser leurs arguments dans la presse, c'est la semaine de la presse cette semaine.
Eh ben, ils peuvent
dans Phosphore évidemment.
Dans Phosphore évidemment, mais dans l'ensemble de la presse jeunesse, on a effectivement à la fois une presse où il y a des reportages, où il y a une rubrique dans Phosphore où il y a des éléments pour débattre cette semaine sur le RIC. On leur donne les éléments, le pour, le contre.
Le référendum d'initiative citoyenne.
Citoyenne, pour qu'ils puissent se faire leur propre point de vue. C'est important cette presse-là pour les aider à se forger leur point de vue et pas que les Comme disait Elena, les parents vous disent quoi penser, etc. Mais que eux puissent construire leur esprit critique et décider un peu dans quel monde ils ont envie de vivre.
Allez, d'autres conseils pratiques. Bah, une question importante, la voix. Comment on s'y prend pour bien calibrer sa voix? Quelles sont les règles de base, le B.A.B.A. Stéphane de Freitas?
Alors, il y a une règle, c'est de toujours visualiser la personne au dernier rang. Il y a un autre conseil d'ailleurs que prodigue Bertrand dans la voix haute, c'est de visualiser une montagne au milieu de la salle et d'essayer de projeter des mots et de projeter, de s'adresser au-delà de la montagne. Mais voilà, je pense que ces deux conseils, de s'adresser à la personne, de visualiser le dernier rang et de visualiser et de s'adresser à ces personnes.
Pour projeter sa voix.
Tout à fait. On est sûr que si on est dans cette énergie-là, on est sûr que les gens au premier rang et au milieu de la salle l'entendront.
Et on projette mieux quand on articule. C'est important ça, d'articuler. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vraiment le B.A.B.A. Bertrand Perrier.
Dans le prolongement de ce que dit Stéphane, il faut concevoir sa voix comme une musique, avec plus fort, plus vite, moins fort, moins vite, des accents, des pauses. C'est un peu comme une partition en réalité. On n'écouterait pas une symphonie qui durerait 10 minutes sur la même note au même rythme. Donc il faut concevoir comme un sinusoïde, quelque chose qui soit varié, qui soit riche, avec des ruptures, qui soit différent. Et donc la parole vit aussi de la voix. On sait que dans la force d'un discours, il y a 60%, c'est le non-verbal, c'est-à-dire le corps, 30% le paraverbal, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prosodie, les inflexions de la voix, et finalement 10% seulement les mots eux-mêmes. Donc la qualité de la voix, la qualité musicale de la voix, c'est vraiment très important.
Et les silences ?
Et les silences, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans un courant continu, et c'est aussi le silence, une façon de récupérer la curiosité et l'attention de ceux qui vous écoutent.
Sur le silence, il y a ce qu'on appelle la ponctuation du silence, et ça c'est un bon conseil, parce que souvent quand on commence justement pour les jeunes publics, à prendre la parole, on ne sait pas comment se positionner sur le rythme, est-ce qu'on est rapide, on ne maîtrise pas bien justement les ruptures de rythme. Et donc il y a un conseil qui peut être utile, c'est de se dire que lorsqu'on écrit un discours, il faut imaginer que lorsqu'on fait une virgule, on peut prendre une seconde de pause, comme ça, et lorsqu'on conclut une phrase, eh bien on peut mettre un point, et là sur une virgule on s'arrête une seconde, sur un point on s'arrête deux secondes.
Le silence a deux vertus. Une sur l'orateur qui peut continuer à construire son discours en silence, dans ces moments de silence, et donc être d'autant plus précis quand il reprend la parole. Et une vertu sur le destinataire, sur l'auditoire, qui peut ainsi faire le tri, mémoriser, prendre le temps d'être ému de la parole de celui qui parle.
Et là,
vous parliez quand même de l'articulation, qui est quand même quelque chose d'absolument essentiel, notamment pour les jeunes générations. Parfois, quand on écoute les jeunes générations, on a l'impression qu'on n'a pas payé pour les consonnes. mais les consonnes sont aussi importantes. Donc, il faut qu'on ait les consonnes et les voyelles. Alors, on peut faire mille choses. On peut essayer de se mettre un stylo dans la bouche, tout ça. On peut penser à Démosthène qui mettait des cailloux dans sa bouche. En tout cas, veiller vraiment à ce qu'on ait les consonnes autant que les voyelles.
Et la gestuelle ?
Et la gestuelle, bien sûr, mais sans être un sémaphore non plus. C'est vrai qu'il faut trouver un bon mi-chemin entre une momie et un sémaphore. Ouais. C'est simplement le geste qui est adapté au propos. Et le geste est bon lorsqu'il est adapté et qui vient simplement renforcer le propos.
Et que faire quand un jeune, un moins jeune, commet une grosse faute de français, de syntaxe, de grammaire, de conjugaison, bafouille ? On assume et on s'excuse et on fait de l'autodérision.
Oui, alors moi je suis assez intraitable avec ça, sur la question de l'orthographe, la syntaxe. Je ne lâche pas les élèves sur ça. Je crois que la bienveillance a comme revers l'exigence. Et donc, s'il y a une faute, je la signale. Et oui, alors l'autodérision, bien sûr, est une qualité essentielle de l'orateur. On n'est pas parfait, tout le monde peut faire une faute de liaison, tout le monde peut accrocher sur un mot.
Bafouiller.
Simplement, bafouiller, évidemment. Et je l'ai fait plusieurs fois depuis le début de cette émission. Donc, il n'y a pas de drame autour de cela, simplement il faut l'assumer et peut-être dire aussi très clairement au début d'une prise de parole, écoutez, ça n'est pas mon exercice favori, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de le faire, mais je vais donner le meilleur de moi-même.
Stéphane de Freitas.
Sur ça, ce qu'on essaie de faire, et Bertrand, il a son exigence, c'est vrai que Bertrand intervient aussi dans les formations à l'université, sur les publics plus jeunes, on a remarqué qu'il fallait peut-être pas tout de suite le brider, le signaler, parce que sinon il y a une pression qui se met. Donc on essaye, et ça n'empêche pas que plus on grandit dans les classes, au lycée, à l'université, il faut avoir cette exigence, et je pense que c'est très constructif, comme le dit Bertrand. Mais dès le collège, on essaie plutôt d'abord de prendre le réflexe de sortir de la coquille, de libérer et d'être moins regardant sur ça, de pas faire les remarques sur la syntaxe. Il y a d'autres cours, notamment le cours de français, mais nous on essaie de libérer cette énergie sur les publics jeunes.
Ah, il est temps de retrouver Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Vous évoquez cette semaine cette jeunesse qui veut réparer le monde.
Ah oui, mon cher Ali, car je ne sais pas vous, mais moi j'ai été frappé de mon côté par la variété des manifestations auxquelles nous avons été confrontés ce week-end. Manifestations lycéennes et citoyennes pour le climat, avec des slogans plus drôles, plus inventifs, plus incisifs les uns que les autres. Manifestations violentes des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Nous reviendrons bientôt sur cette violence qui empoisonne notre société. Et puis manifestations monstres dans les rues d'Alger, de cette jeunesse algérienne qui rêve d'un printemps qu'elle attend depuis trop longtemps et à qui nous consacrons justement le numéro du 1 de cette semaine. Le printemps, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Et avec lui, la promesse de ce nouveau monde porté par une jeunesse qui a plus que jamais envie de débattre, d'échanger, de convaincre, de participer à la refondation de ce que nous, les adultes, avons peut-être brisé. C'est un peu dans cet esprit que nous avons fondé Zadig, une nouvelle revue trimestrielle, indépendante, sans publicité, et qui, pour son premier numéro, veut justement réparer la France, avec des mots porteurs comme il est des murs porteurs. Au moment où notre société se fracture, nous avons la conviction qu'elle manque d'un récit à partager, un récit qui respirerait le même air que ceux dont il parle.
Alors que retrouvera-t-on dans ce nouveau Zadig que j'ai eu la chance de feuilleter ?
Eh bien, notre démarche tient en quelques impératifs. Ralentir, réfléchir, se tenir à l'écart des clichés et des préjugés ou d'un surplomb éthéré sur cette province que nous aimons tant, mon cher Ali, puisque nous en sommes les enfants. Donner la priorité à l'humain et nouer un contact intime avec notre pays. Nos plongées en France, nous les ferons avec des écrivains et des reporters, des historiens, des démographes, des géographes, avec tous les regards susceptibles de nous éclairer dans un esprit d'ouverture mêlant approche sensible et savoir accessible. Dès ce premier numéro, nous aurons Mona Azouf, Leïla Slimani, Marie Dariussec, Patrick Boucheron, Léonore de Récondo et bien d'autres pour donner le ton avec des illustrateurs, Catherine Meurice, Nicolas Vial, Mathieu Sapin. Comme dans la chanson de Brel, vous y verrez Vierzon et vous y verrez Vesoul, mais aussi le Guilvinec, le Creusot, la Réunion, Marseille, Le Havre, Cagnes-sur-Mer. Voilà, Zadig, c'est un peu une sorte de Tour de France sans la caravane publicitaire. C'est un voyage digne du personnage de Voltaire pour lequel notre seule boussole sera la compréhension de notre pays, de la vie de ses habitants et du destin commun qui les lie. Car comme l'explique Pierre Rosanvallon dans nos pages, une société ne peut pas devenir démocratique si elle est gouvernée par les préjugés et l'ignorance d'autrui. Et on se dit en l'écoutant qu'il n'y a pas que les enfants qui ont parfois besoin qu'on leur apprenne à débattre, à argumenter et surtout à écouter.
Algérie, roulée jeunesse, c'est le thème de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, à retrouver en kiosque et en librairie, sans oublier la sortie demain du nouveau trimestriel Zadig, qui est l'équivalent d'América pour la France. Merci beaucoup Julien Bisson. Dans quelques instants, quelques jeunes prendront la parole et tenteront de nous convaincre. Enfants ou ados, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 pour défendre une idée ou une cause.
Mes pupilles belles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher. Prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête maudite, soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Dans
tempête, tempête. J'empeste les restes d'une vieille fête. Maudit toi telle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye d'être assuré, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde toute tête menaçant. J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée à queue s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Aloïse Sauvage, présentement.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47 et ce matin, nous donnons à vos enfants ou petits-enfants des outils concrets pour bien parler en public. Les jeunes prennent la parole pour défendre une idée, une cause, en essayant de nous convaincre au 01 45 24 7000. Bienvenue Alban, bienvenue, tu as 13 ans et tu appelles de Dordogne.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Tout va bien?
Très bien, oui. Merci.
Alors qu'est-ce que tu as envie de défendre comme cause là, ce matin à l'antenne de France Inter?
Eh bien, j'aimerais présenter la cause sur le respect, parce que je trouve ça quand même important. Que surtout pour le respect de l'autre, que ce soit pour sa couleur, son âge ou son statut social. Parce que je pense que si les gens se respectaient mieux, ben ils seraient plus heureux dans leur vie et il y aurait moins de conflits et moins d'égoïsme. Et par exemple, je prends l'exemple de la classe, parce que quand on nous dit les enfants, il faut bien respecter les gens qui vous encadrent, vos enseignants, etc. Nous, bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais il faut que aussi, je pense, que ce soit réciproque, les enseignants envers nous. Parce que, comme j'ai dit, que ce soit son âge ou n'importe, il faut être respecté, peu importe le cas. Et je pense qu'en fait, respecter l'autre, c'est aussi se respecter soi-même, en fait. Et après, c'est sûr, il y a plein d'autres trucs sur le respect, mais c'est ça qui me vient le plus à l'esprit.
Alban, pourquoi est-ce que cette question du respect te tient à cœur?
Ben, parce que je trouve ça vraiment important pour vivre, pour bien vivre ensemble. C'est l'essentiel, quoi.
Bon, mais merci d'avoir défendu ton point de vue, Alban, Stéphane de Freitas.
Moi, je trouve ça super. C'est vrai que on demande, nous, à tous nos formateurs, de désormais demander d'abord la permission à tutoyer les enfants, si ça les dérange pas. Parce que
désolé,
ça...
je t'ai tutoyé, Alban. Tu aurais préféré que je te vous voie, peut-être?
Pas grave.
Non, mais on le fait aussi parce que, évidemment, on sait que ça va être le cas, mais c'est de montrer de la considération. On a remarqué, c'est vrai, et les enseignants aussi, que dans cette jeune génération, il y avait une envie, justement, d'interaction un peu plus horizontale, parfois avec l'enseignant. Et c'est plutôt dans cette dynamique-là, parce qu'évidemment, on a ce réflexe-là.
Merci Alban de nous avoir appelé ce matin. J'aimerais qu'on donne à nouveau quelques conseils pour bien argumenter et être au mieux à l'oral. Bertrand Perrier, pourquoi est-ce que c'est important de placer quelques figures de style dans sa prise de parole? Il y a évidemment l'anaphore, le célèbre « moi, président de la République » de François Hollande, l'oxymore, exemple, cette obscure clarté, la métaphore. C'est quoi l'idée avec ces figures de style? Ce sont des images pour frapper les esprits?
Oui, c'est ça. En réalité, dans un discours, on retient pas tout. Et donc, c'est toujours la même chose qu'on retient. C'est la formule, c'est l'image, c'est ce qui frappe immédiatement l'esprit, parce que c'est un exemple, parce que c'est une jolie tournure. Moi, je dis souvent, de temps en temps, résumez votre pensée dans un tweet. C'est ça que l'on retient. C'est frappant. Ça permet de scander la pensée. Et de temps en temps, de résumer sa pensée, ça permet d'abord de passer à une autre idée et ça permet à l'auditoire pouvoir de retenir vraiment quelque chose de ce qu'il a entendu.
Stéphane Freitas, sur les figures de style.
C'est ça, c'est que ces images, alors on a... Alors il faut dire une chose sur les figures de style, c'est un gros mot parfois. Quand on dit aux jeunes, on va faire des figures de style, tout de suite, on a le cours de français qui arrive, tout le monde s'accroche, il y en a qui grimacent. Mais en fait, des figures de style, on en fait à longueur de temps. C'est-à-dire que, il m'énerve cette tête de chien là, bah hop.
Merci. Merci Stéphane Freitas.
C'est vrai que j'ai regardé.
Vous m'avez regardé dans les yeux là.
C'est là, c'est hop, on fait une animalisation.
Le chien, ça va.
Non mais, no offense, personnel, au contraire. La comparaison, comme la feuille blanche perturbe l'écrivain, le trou noir empêche l'orateur de discuter. Bah là, hop, comparaison. Donc on en fait à longueur de temps, et c'est vrai que, en tout cas, les visualiser, les lister, les identifier, les assimiler, ça permet d'enrichir le discours pour être plus percutant, créer des images et parler à l'esprit et à l'inconscient aussi du public.
David Groison de Phosphore.
Il y a ces formules choc, mais il y a aussi les histoires derrière. Oui. C'est-à-dire le discours « Yes, we can », c'est effectivement un slogan, mais c'est aussi l'histoire d'une femme, une centenaire, qui a connu l'esclavage et qui a grandi, qui a traversé l'histoire des États-Unis. Et on retient « Yes, we can », mais on sait aussi qu'on a été ému par cette histoire extrêmement forte.
Bonjour, rebonjour Mathias. Bonjour. Mathias Blanc, tu es donc élève de 3e au collège Corot à Chelles en région parisienne. Alors toi, tu es vainqueur du concours Eloquentia dans ton collège.
C'est
quoi le concours Eloquentia en quelques mots ?
C'est un concours qui incite les jeunes à prendre la parole et ne pas avoir peur de parler en public.
Alors ce matin, tu prends la parole pour défendre le climat, comme des centaines de milliers de jeunes qui défilent partout en France. On t'écoute, mon cher Mathias.
Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être un ado avec le réchauffement climatique? Voilà une question qui mérite d'être posée. Étant moi-même un ado, je vais pouvoir vous répondre. Déjà, savez-vous vraiment ce qu'est le réchauffement climatique? Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler en cours de SVT ou même à la télé, mais sans y avoir vraiment prêté attention et sans faire les recherches qui vont avec. Eh bien, sachez que ce qui se passe est extrêmement grave. Le monde est d'ailleurs, d'après certains scientifiques, dans un état irrattrapable. Parlons du plus grave, la fonte des glaciers. En effet, à cause du réchauffement climatique, les glaciers sont en train de fondre. Et là, vous vous demandez quelles sont les conséquences? Eh bien, pour faire simple, des dizaines d'ours polaires meurent chaque jour, le niveau de l'eau monte, ce qui inonde des bâtiments et tue des personnes, et les plages vont probablement tous se faire engloutir d'ici quelques années. Et vous voulez savoir la cause de ce réchauffement climatique? Eh bien, c'est à cause de nous, les humains. En effet, le réchauffement climatique est provoqué à cause du CO2. Et oui, le même CO2 qui dégage de votre voiture ou même de votre cigarette. C'est dingue de se dire que ce que font certaines personnes quotidiennement endommage un peu plus chaque jour notre planète. Donc, pour revenir à la question principale, je vais vous répondre franchement. C'est extrêmement dur d'être un ado aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Mais bon, je peux quand même trouver un point positif là-dedans. C'est que du coup, chaque année, je suis encore plus content d'aller en vacances en Corse, parce que je sais que l'eau sera encore plus chaude. Mais bon, essayons quand même d'améliorer les choses, car c'est notre génération qui en souffre, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre.
Bravo Mathias, franchement bravo. Je comprends que tu aies remporté le concours Eloquentia dans ton collège. Bertrand Perrier, l'avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État.
Ah ben là, je vais défendre Mathias, évidemment, à supposer qu'il soit accusé de quoi que ce soit, c'était formidable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout instinctivement. Il y a les questions rhétoriques, il y a les images, il y a les petites narrations, les petites histoires qui viennent renforcer l'idée, il y a les ruptures de rythme, il y a les interjections qui permettent de raviver la flamme de l'intention, de l'attention du public. Il y a tout, voilà, c'est formidable.
Stéphane de Freitas.
Non, c'est super. Et puis, il y avait des idées bien articulées avec des illustrations. Le premier, des arguments émotionnels, hein. Bonne stratégie. Les ours qui meurent, la plage qui va disparaître, plus de vacances.
La pointe d'humour à la fin avec les eaux corses qui seront encore plus chaudes.
Tout à fait. Non.
Héloïse Dérété.
Et puis, il y a la conviction personnelle dont on n'a pas parlé du tout pendant cette émission, mais c'est aussi un élément, évidemment, central dans tout bon discours.
Bonjour, Elena.
Bonjour.
Elena Ourdin, lycéenne à Toulouse, je me permets de te tutoyer donc, tu as remporté le concours tu as remporté le concours du Mémorial de Caen. Alors ce matin, tu as envie de défendre la cause des femmes SDF et femmes invisibles.
Ah bah oui, parce que être une femme dans la rue, c'est une double peine. Donc elles sont aussi très souvent pas montrées parce qu'elles se cachent, parce qu'elles ont peur, parce qu'on ne veut pas les voir. Donc j'ai décidé de les défendre pour porter la voix de femmes qu'on n'entend pas.
Donc, juste avant, Elena, juste avant, Elena, oui. Juste avant, je ne sais pas si tu touches ton téléphone, on entend un cliquetis. En tout cas, bon, on t'écoute.
Et puis, il y a cette femme. Cette femme qui se trouve toujours au même endroit, dans un des couloirs du métro parisien. Je ne pourrais pas vous dire son prénom, mais je connais sa silhouette et j'imagine son visage. Tous les jours, elle est là. Tous les jours, je passe devant elle sans oser la regarder, comme gênée d'avoir droit à une vie décente. Une vie qui lui est, à elle, refusée. Et puis, un mardi, elle n'est plus là. Et la seule trace de son existence, un carré, plus clair que le reste du sol. Sans l'empreinte de ce qu'elle a été, un espace vide, dans le métro, entre la ligne 1 et le RER A. On ne meurt pas de faim dans la rue, mais on meurt de solitude et d'indifférence. Alors qu'avons-nous fait de la justice sociale, de notre solidarité, de notre exigence de dignité? Comment dans notre pays peut-on encore accepter aussi facilement la situation de ces 30 000 femmes sans abri? Y aurait-il deux Frances? Une France où les droits humains sont garantis et respectés, et une autre où ils sont systématiquement violés? Parce que ces femmes n'ont pas de toit, elles n'auraient pas de droits. Je refuse de l'accepter. Je refuse d'accepter que des femmes, par dignité, se dissimulent. Je refuse d'accepter que des femmes, par sécurité, se cachent.
Voilà. Merci beaucoup, Elena. C'était assez difficile par téléphone et surtout avec ces légers problèmes techniques. Merci beaucoup en tout cas, Elena, d'avoir défendu les femmes SDF invisibles. Allez, il nous reste une petite poignée de minutes. Quelques conseils, comment on peut récapituler ce qu'on s'est dit ce matin, Stéphane de Freitas?
Si on résume, c'est de se dire, il faut d'abord se forcer, hein, la prise de parole. Il y a des gens qui ont des facilités, qui sont dotés comme ça naturellement de plus d'aisance, mais c'est possible de s'améliorer, ça peut se travailler, ça peut s'acquérir. Tout le monde ne part pas avec les mêmes qualités, compétences, aisance à la base, mais tout le monde peut y arriver, il suffit d'y aller. Et puis ensuite, il y a quelques techniques comme ça, déjà de méditation, d'introspection, puis de structuration du propos, on en a parlé, et de verbalisation. Mais tout ça vient presque naturellement, l'appétit vient en mangeant, encore faut-il se mettre à table.
Bertrand Perrier.
Faites-le tous les jours. Faites-le tous les jours.
On peut s'amuser en famille.
Mais bien sûr. Et moi, je rêve de créer un jeu de société qui aurait pour base la prise de parole en public.
Allez, chiche.
Allez, on va le faire.
Allez, chiche. Avec Stéphane de Freitas.
Non, mais c'est vrai. On peut le faire en famille. On peut le faire à tout propos. Il faut trouver simplement aussi des thèmes qui amusent des enfants. Est-ce qu'il faut plus de frites à la cantine? Est-ce qu'il faut moins de devoirs à la maison? Est-ce qu'il faut plus de sport? Est-ce qu'il faut plus de récré? Ça, c'est des sujets qui les intéressent, qui les motivent et qui peuvent rendre ça très ludique au fond.
David Groison, de Phosphore.
Je crois aussi que pour être bon, c'est trouver la cause qui vous tient à cœur, des sujets qui les touchent.
Comme pour Mathias.
Comme Mathias, c'est-à-dire c'est un vrai moment là qu'on vit autour du climat et de lever d'une génération, et c'est important de le dire.
Héloïse Lhérété.
Pour ajouter une autre idée, savoir conclure, bien sûr. Donc préparer sa phrase de fin. On a dit qu'il fallait écrire la première, peut-être aussi écrire la dernière, pour ne pas terminer sur un « bah, voilà, voilà ».
L'art de parler, c'est à la une de Sciences Humaines, mais c'était le précédent numéro. Et on peut le trouver où, ce
oui,
numéro?
Oui, bien sûr. J'espère déjà qu'il vous a plu. Et on essayait d'avoir donner une belle matière à penser, à réfléchir et à progresser. On le trouve sur le site internet de sciencesHumaines.com avec Bertrand Perrier qui est interrogé, Barbara Cassin, Nicolas Rousselier,
Merci
Bonne Navarre.
Merci beaucoup, Héloïse Lhérété. Merci Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat, c'est publié chez Lattès. Stéphane Freitas, Porter sa voix, c'est publié aux éditions Le Robert. Et merci beaucoup Mathias Blanc, tu as été excellent. Merci.
Ah bah, merci à vous.
Demain, on s'intéresse aux influenceurs sur les réseaux sociaux avec la revue Oui Demain, ces personnes qui influencent l'opinion, la consommation par leurs audiences sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de se demander comment fonctionne l'influence sociale. 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Grégory Vallon et Tiffany Bastistel.